Je vous invite à entendre un texte que vous connaissez par cœur, j'en suis sûr. C'est la parabole du semeur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, des versets 1 à 9, puis 18 à 23. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus, ils ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé, parce qu'il n'y avait pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffées. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30, entendent qu'il y a des oreilles. Et voici une explication qui nous est donnée dans le même chapitre, versets 18 à 23. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parabole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'en empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine, il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Avant de revenir sur ce texte, je vous invite à chanter le cantique 279, les strophes 1, 2, 4. Père, que ta parole soit inscrite au cœur même de nos vies, afin que nous puissions aller sur nos routes, ces routes sur lesquelles tu nous accompagnes les uns et les autres, afin que nous puissions porter du fruit et du fruit en abondance, selon ta volonté. Merci Père pour ta parole. Merci Père de marcher sur nos routes. Amen. comment dire, l'essentiel en peu de mots, hein. Eh bien, il faut raconter une parabole. Et Jésus manie bien l'art de la parabole. Il y a de fortes chances que ces paraboles soient de lui, au moins la plupart d'entre elles. Je ne suis pas sûr que le commentaire, en revanche, soit de Jésus. Jésus prêche en parabole, c'est-à-dire dans un langage imagé, qui est accessible et compréhensible par tous. Et c'est peut-être pour ça que de grandes foules viennent écouter et qu'il est obligé pour cela d'utiliser l'écho qu'il y a au bord de la mer pour pouvoir parler et se faire entendre, comme c'est illustré de manière tout à fait intéressante sur le tableau que moi j'ai en face de vous, de moi, mais que vous avez dans votre dos là-haut, où on voit Jésus qui prêche depuis une barque qui est sur le lac de Tibériade. Vous voyez ? Et Maurice Carrez, mon professeur du Nouveau Testament, m'avait dit qu'il avait fait l'expérience de parler du lac de Tibériade sur une barque, et effectivement, on entend très bien sur la plage grâce à l'écho. Et donc on a c'est intéressant de voir par des petits détails comme ça, dans les évangiles ou dans ces types de récits, qu'on a des anecdotes qui nous mettent en situation finalement. Je trouve ça assez intéressant. Et Jésus donc parle et prêche en parabole. Dire les pasteurs, eux, prêchent rarement en parabole, ils sont beaucoup plus compliqués, c'est dommage. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et alors, cette parabole, elle a frappé les esprits. Elle a frappé les esprits et je suis sûr que vous la connaissez par cœur. Vous êtes tous capables de la raconter. Si on vous le demandait à la sortie de ce culte, au cours du repas, n'importe, vous me dites, qu'est-ce qu'a raconté le pasteur? Il a raconté la parabole du semeur et ploum, vous la racontez en gros. C'est fait exprès. C'est un moyen pédagogique pour faire passer un message qu'on n'entend qu'une seule fois. Alors cette parabole du semeur, elle est dans Matthieu, Marc et Luc, elle est à peu près racontée de la même manière. Ce sont des commentaires qui changent, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que dans Luc, il y a le diable. Dans le commentaire, le diable qui a peur que les paroles qui sont sur le bord du chemin et sur la route puissent prendre racine et que donc, hop, eh bien, il les enlève toutes. Comme ça, il est tranquille, la parole disparaît, je veux dire. Donc, on voit le diable qui entre en scène. Mais il y a aussi la persécution qui est là aussi chez Marc, qui dit, ben voilà, hein, ceux qui sont dans l'enthousiasme, etc., eh bien, dès qu'arrive la persécution, ça disparaît. Vous voyez que les commentaires ne sont pas tout à fait les mêmes, et peut-être que les publics auxquels s'adressent les différents évangélistes impliquent qu'on puisse moduler le commentaire de cette parabole. Et puis, il y a un écho lointain aussi dans l'épître de Jacques. Là, c'est plus inattendu. Dans l'épître de Jacques, il est dit que la richesse assèche les hommes. Je veux dire, et qu'arrive le mauvais temps, le sirocco, etc., et pouf, tout s'effondre, etc. Donc on a là aussi, vraisemblablement, je pense qu'on a peut-être, je me trompe, je n'en sais rien, mais on a là vraisemblablement un écho de cette parabole qui a été transmise à Jacques et qui nous en raconte un petit bout à sa manière aussi et pour son public à lui aussi. Et puis, lorsqu'on lit cette parabole, on ne peut pas faire autre chose que de penser aux autres paraboles qui sont, elles aussi, très bucoliques, évidemment, puisque nous sommes dans une société très agricole. Il y a le grain de moutarde, il y a la mauvaise herbe aussi, qui sont là et qui viennent compléter cette parabole du semeur, le grain de moutarde qui pousse tout seul, qui devient une grande plante qui accueille tous les oiseaux du ciel. Et puis la mauvaise herbe qui est là, qui est semée dans la bonne terre, et qui vient perturber la récolte aussi, de telle sorte qu'à la fin, il faut faire le tri entre la mauvaise herbe qui sera brûlée et puis le grain qui sera gardé. Et comme ça, nous sommes dans ce milieu agricole. Mais ce qui est intéressant, et moi ce qui me frappe toujours quand je lis cette parabole, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est que cette parabole, elle est pleine d'évidence et d'incohérence et d'erreurs. Voilà. C'est un tissu d'Alain. Je veux dire, je suis désolé de vous le dire comme ça, d'une manière un peu abrupte. D'abord, le semeur sort pour semer, c'est une évidence. Je veux dire, si on avait voulu faire concis, on aurait sauté cette phrase. Je veux dire, le semeur, en semant, a mis des graines ici ou là. On n'aurait pas besoin de dire que le semeur est sorti pour semer. Et puis alors, je peux vous dire une chose, c'est que jamais, jamais, on a vu un paysan mettre du grain sur les épines, sur la route et sur les rochers. Il y a quand même deux raisons à cela. D'abord, les rendements agricoles dans l'Antiquité sont extrêmement, extrêmement faibles. Je vais en dire un mot. De telle sorte qu'on ne gaspille pas les grains, d'une part. Et très souvent, on pratiquait le semis au bâton, c'est-à-dire qu'on creusait, on enfonçait un bâton dans le trou, on mettait une ou deux graines dans le trou, et comme ça, voilà. Donc on ne risquait pas d'en mettre ailleurs que dans la bonne terre. Mais quand bien même on est semé à la volée, je peux vous dire que même quand les paysans semaient à la volée, eh bien, ils visaient très juste aussi. Ça, je l'ai vu faire, en revanche, donc j'en suis témoin, voyez, parce que c'est un bien précieux. Alors, ça, je trouve ça un peu curieux. Je trouve très curieux aussi le rendement à la fin. Parce que lorsque Jésus dit à des paysans là, du bord du lac de Tibériade, là, des collines autour du lac, il leur dit, vous savez, un grain va en donner 100. Les paysans disent, il n'a jamais vu un grain de blé, ce type, c'est pas possible. Dans l'Antiquité, un grain donne 4 ou 5 grains sur l'épi. Oui, mais bien entendu, un grain donne très très peu. Les rendements dont parle la parabole, c'est les rendements de la bourse aujourd'hui. Je veux dire, mais en aucun cas ceux du temps de Jésus. Les auditeurs ont dû se dire, mais enfin, il n'a jamais vu un champ de blé, c'est parce que c'est qu'un épi de blé, cet homme-là. Voyez, c'est comme si je vous disais, je ne sais pas moi, vous allez placer votre argent à la banque et vous allez avoir un taux d'intérêt de 200%. À peu près. Alors vous allez me dire, mais Vincent Hubac, il ne va pas bien. Je veux dire, il ne sait pas ce que c'est qu'une banque, c'est parce que c'est qu'un taux d'intérêt, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, quand je vous dis c'est quand même un tissu peut-être pas d'ânerie, mais de bizarrerie que cette parabole, il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Mais on est tellement habitué à ces textes qu'on entend depuis qu'on est à l'école biblique, là, il y a des catéchètes dans la salle ici, donc ils ont dû raconter ces histoires à leurs enfants dont ils ont la charge à l'école biblique. Bon, ben finalement, oui, le semeur est sorti pour semer, il en a mis partout, etc. Et puis il y a des rendements qui sont complètement délirants, tout ça c'est très bien. Mais quand on y réfléchit, je crois que c'est intéressant. Je crois que s'il y a ces incohérences, c'est pas la seule parabole où il y a des incohérences, hein, comme ça, hein. Je crois que c'est fait exprès pour que les gens réfléchissent. Tiens, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Finalement, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'il nous dit un truc pareil? Il y a un truc qui est pas logique, finalement. Ben, c'est ça qui est intéressant. Toutes ces incohérences, tous ces petits récits, là, de Katsu, eh bien, ils sont là pour que nous puissions réfléchir. Alors le semeur sort, et c'est de Dieu dont on va parler. Parce que dans l'image qui est utilisée, le semeur, c'est Dieu. La haie, le rocher, la route et la bonne terre, eh bien, ce sont les genres humains, on va en dire un mot aussi. Et on verra un peu comment on peut s'en sortir de tout ça. Le semeur sort, et je crois que c'est quand même fondamental. On a là le fondement du message du Nouveau Testament. C'est Dieu qui sort de lui-même et qui vient vers le monde. Qui vient vers nous. Ce n'est pas nous qui allons vers le monde. C'est lui qui vient vers nous. Il y a dans cette démarche quelque chose d'essentiel. Véritablement essentiel. C'est sur cette démarche d'un Dieu qui vient vers nous. On va voir comment ça se passe à travers les différentes images qui sont utilisées dans la parabole. Mais c'est à partir de cette idée que Dieu sort de lui-même pour aller vers nous que se joue la bonne nouvelle. Si Dieu ne sort pas de lui-même, si Dieu ne sort pas de là où il est, où on le place, enfin peu importe, eh bien il n'y aura pas de bonne nouvelle. C'est-à-dire, il faudra qu'on se débrouille pour aller le chercher, le décrocher, ou n'importe, je ne sais pas trop quoi, inventer des prières, des salam alek, des offrandes, des sacrifices, et que sais-je encore, hein, pour pouvoir aller chercher Dieu. Mais non, lui, il vient vers nous. Il vient vers nous, et c'est une démarche qui est tout à fait essentielle, finalement, et qui est tout à fait caractéristique du christianisme, finalement. Oh, il y a eu des philosophies qui ont dit ça. Le néoplatonisme, par exemple, parle du logos qui sort de lui-même et qui renouvelle le monde par sa puissance et par son verbe. Mais on est dans une sorte de rationalisme. Là, c'est un petit peu différent. Dieu sort et va vers le monde. Il va vers le monde. Il ne va pas n'importe où. Il va vers le monde parce qu'il y a un projet. Il y a un projet précis qui est là, un projet qui est important. Et en fait, il va vers le monde et il va semer. Et il sème partout. Il sème partout, alors c'est là que ça devient franchement intéressant. Semer partout, comme cela, il y a quelque chose d'une sorte d'exubérance, une sorte de générosité qui est là. Et il va ensuite attendre la récolte pour avoir cette récolte extraordinaire, imprévue, loufoque, quelque chose qui est hors de l'humain, hors du sens commun aussi. Et pourquoi il y a cela ? Alors j'ai écrit dans mon texte là, ben, parce qu'il y a une espérance de Dieu. Je pense à la formule de Wagner qu'on a entendue dans la confession de foi tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'espérance de Dieu, qui n'est pas l'espérance des hommes, qui n'est pas fondée sur la logique ou sur le calcul, mais qui est fondée sur autre chose, qui s'appelle la générosité ou l'amour ou la grâce. Il faut savoir aussi que la justice de Dieu n'est pas celle des hommes. Ici, le semeur ne sème pas sur une bonne terre hypothétique pour laquelle il aurait calculé des rendements intéressants en laissant tomber le reste. Non, il sème partout. Véritablement, il en met partout. Sur la bonne terre, bien sûr, mais aussi ailleurs. Alors, cet ailleurs, il nous est signifié dans le récit par... Je commencerai par les épines. Les épines, c'est là des glantines ou je ne sais pas trop quoi, là, qui bordent les champs souvent. Elles sont là. Qu'est-ce que peuvent signifier cela? Les commentaires qui nous sont donnés nous donnent quelques pistes, mais elles sont quand même très très légères finalement. Je pense que ces épines, c'est qui sont là, signifient les préoccupations diverses de l'humain. Le paraître qui est là, qui nous prend du temps et qui nous prend pas mal d'énergie. Je suis étonné, je veux dire, moi quand j'étais jeune, comme il n'y a pas très longtemps encore, mais enfin bon, il n'y avait pas de, vous savez, les salons de beauté, il y avait des coiffeurs, enfin bien sûr, mais voilà, mais les salons de beauté, il y en avait très très peu, vous savez, puis il y en a de plus en plus, et puis il y a depuis quelques années, on a vu apparaître les ongleries, vous savez. Hein, c'est surtout les dames, j'ai pas vu de monsieur dans les ongles, je regarde, j'aime bien regarder, donc on les voit, ils sont comme ça, ils bougent plus, là, ils attendent et puis on leur bricole les ongles, je veux dire, voilà, alors c'est fou le nombre, comme ça prend beaucoup tout ça, alors je comprends qu'on aime bien être pomponné comme ça, je veux dire, ça, c'est, après tout pourquoi pas, c'est bien, il faut avoir respect de soi, de son corps, ça va de soi, mais quelle énergie dans le paraître, hein, dans le bien-être aussi, avec tous les salons de massage, j'en passe, et des meilleurs, et ainsi de suite. Quelle énergie utiliser là-dedans? Et puis l'orgueil, on veut être tout à fait au dernier cri, etc., à la mode, on passe du temps, etc. Il y a mille et une choses qui peuvent étouffer la parole, la mettre un petit peu de côté, évidemment. Mais il y a bien d'autres choses aussi. Il y a des préoccupations qui peuvent être sérieuses, évidemment, qui ne sont en dehors de l'hédonisme, en dehors du paraître, évidemment, ou de l'orgueil. Il y a des soucis du monde qui sont là, des soucis graves, quelquefois, qui peuvent arriver. Les parents peuvent avoir des soucis pour leurs enfants qui ont tel ou tel problème à gérer, ou eux-mêmes, les parents ont des problèmes à gérer, je ne sais pas. Je veux dire, il peut y avoir aussi ces engagements qui sont là, on s'engage dans telle ou telle cause, on y va à fond, donc on n'a pas le temps, finalement, d'aller au culte, de lire la Bible, et donc ben, tout ça finit, cette parole finit par s'étouffer petit à petit. Mais il y a des choses aussi qui sont encore plus graves, je pense. Je veux dire, ce sont les difficultés du monde. Quand on est accablé par une maladie, par exemple, on se pose des questions, on se dit mince, pourquoi ça me tombe dessus, pourquoi ceci et cela, je veux dire, si Dieu existait finalement, puis. Franchement, on se sent abandonné, ça peut arriver, ce sont des choses qui arrivent. Et finalement, là aussi, la préoccupation due à la maladie finit par étouffer la parole ou la mettre vraiment au rencard, sur une voie de garage. Mais les deuils aussi. Lorsqu'on est accablé par le chagrin et par la peine d'avoir perdu un être aimé, on se pose aussi bien des questions, on peut se sentir abandonné, on peut se demander où est la parole, quelle parole va enfin apporter de la lumière dans la nuit ? Et ainsi de suite. Il y a le fils prodigue aussi. Parabole du fils prodigue qui nous dit que face à cette dégringolade que vit le garçon qui est parti à l'aventure avec l'héritage de son père et qui se trouve en train de garder des cochons, eh bien, il rentre en lui-même. Alors, là aussi, pendant tout un temps, la parole a disparu. Et mais si je vous cite ces exemples, c'est que je me dis, mais finalement, cette parole qui tombe dans les épines, comment peut-elle fructifier et profiter? Alors, je pensais aux animaux. Vous voyez, si j'étais un écolo, je vous dirais qu'il faut planter des haies un peu partout, parce que ce sont des écosystèmes qui sont importants. Je veux dire, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le dire aussi? La parole peut profiter à d'autres, si elle ne profite pas à nous. Mais surtout, je me dis souvent, par l'expérience, à partir de cette parabole du fils prodigue, que ce garçon qui rentre en lui-même alors qu'il a abandonné son père, c'est-à-dire qu'il a abandonné Dieu, qu'il s'en est éloigné. Cette parabole nous dit que ben finalement, il y a des temps où on peut écarter finalement les épines qui sont là et qui nous étouffent pour laisser finalement grandir, pousser cette graine qui est là et qui va fructifier finalement un petit peu ou beaucoup, ça dépend des circonstances. C'est pareil, à travers les maladies, on peut très bien, à un moment donné, se dire, ben, il se passe quelque chose d'intéressant, finalement, on n'est pas si seul que ça, et retrouver un chemin d'espérance. Et les deuils aussi. Combien de personnes dans le deuil ont pu se dire, oui, c'est vrai, il y a ce malheur qui est là et qui nous accable, et la peine est légitime, évidemment, le chagrin, bien sûr. Mais de se dire, à travers cette nuit, il y a quand même une lumière qui brille et qui finalement va nous donner un petit peu le goût de la vie, va nous permettre de repartir finalement. Pour ça que je trouve que l'explication qui est donnée sur les épines, je ne crois pas qu'elle soit de Jésus. Je pense que c'est quelqu'un qui a voulu mettre un commentaire, mais je ne la vois pas de Jésus. Je ne la vois pas assez ouverte sur le monde, je ne la vois pas pleine d'espérance envers et contre tout. Alors vous me direz, voilà, les rochers alors. Ah, le rocher, on le connaît aussi. Le rocher sont les enthousiastes, c'est ce qui est raconté dans la Bible, dans le commentaire. Les enthousiastes, on les connaît, ils sont nombreux. On a tous été enthousiastes un jour dans sa vie, hein, j'espère. Voilà. On est enthousiaste. La question de savoir si nous sommes endurants, c'est un peu la problématique de ce rocher, cette image qui est là. La persécution, évidemment, peut nous faire lâcher prise. On le sait, vous savez, on parle souvent, les protestants le savent bien en France, hein, parce qu'on a quand même eu quelques soucis dans l'histoire, ce que vous savez, mais combien ont craqué au moment des dragonnades, hein, ou devant le bûcher, finalement. On le sait, on n'en parle pas trop, mais il y en a eu, et c'est normal. Que ferions-nous les uns et les autres? Vous savez, quand la difficulté est lointaine, eh bien, on est souvent un grand héros, mais quand la difficulté approche, on est plus discret en général. Et puis, quand le temps dure aussi, et que la lassitude s'installe, finalement, eh bien, cette lassitude finit par user l'enthousiasme, et puis l'enthousiasme disparaît, et le projet finit par tomber à l'eau, si je puis dire. Il y a des effets de mode aussi. C'est-à-dire combien de personnes se sont enthousiasmées, littéralement avoir Dieu en eux-mêmes, en disant « on va s'engager, il y a un enfant qui est mort sur la plage, on a vu en première page des journaux, etc. Hein, de ces boat people d'aujourd'hui, de la Méditerranée. Mais on va faire quelque chose, on va y aller. » Et puis, le temps passe, il y a d'autres affaires qui arrivent, et on laisse le choix finalement ce qu'on avait prévu de faire. Mais c'est vrai que la Bible nous dit d'autres choses. Elle nous dit, attention à tout ce qui dessèche aussi, qui n'est pas le temps, la lassitude, les effets de mode, attention aussi à cet argent dont parle l'épître de Jacques, qui peut assécher les cœurs. Et nous le savons que trop, finalement. On passe souvent plus de temps à compter qu'à donner. Plus de temps à cacher, à enfermer, qu'à ouvrir et à faire vivre. Il faut choisir entre Dieu qu'on peut apprécier, pour lequel on peut s'enthousiasmer, et puis aussi Mammon, finalement, qui est une véritable idole. Il y a une parabole qui est assez intéressante, c'est l'homme qui fait la guerre, vous savez. Quand il voit arriver l'ennemi, il compte les soldats en face, pour voir s'il en a assez, lui, pour pouvoir faire la guerre, vous savez. Assez pratique, finalement, dire. Et je pense que tout bon général devrait s'inspirer de cette petite histoire qu'il y a aussi dans les évangiles. Oui, faire attention un petit peu, ne pas partir comme ça, enthousiaste, et puis se dire, mince, on va trop loin. Peut-être que quelquefois la locomotive décroche les wagons parce qu'elle va trop vite. Ça arrive aussi. Mais combien d'enthousiasme sincère, vraiment sincère, finissent par laisser tomber cet enthousiasme. Je pense par exemple, en tant que pasteur, à tous ces jeunes que j'ai préparés au mariage. Ah bien, il y en a pas mal. Hein. Et les préparations au mariage, c'est extraordinaire. C'est vraiment un moment de joie. Je ne sais pas si les pasteurs qui sont présents dans cette pièce le partagent les mêmes impressions que moi, mais je trouve que c'est toujours des moments d'espérance formidables, de joie, d'amour partagé extraordinaire. Et souvent, ces jeunes écrivent eux-mêmes des témoignages qui sont assez formidables, qui sont très, très riches, hein, et d'engagement, etc. Et je les embête beaucoup quand je prépare un mariage. Je les embête pas mal, je les vois entre 7 et 10 fois. C'est-à-dire, il y en a, dans cette salle, il y a des témoins de ce type d'aventure qui pourraient vous le dire. Et donc, c'est formidable. Mais la plupart du temps, après cet enthousiasme extraordinaire, ils me disaient oh, « Monsieur le pasteur, votre prédication, c'est génial, etc. Super, quel culte, etc. » Puis pouf, on ne les voit plus. Quand l'affaire est terminée, je veux dire, c'est pas vrai pour tous, hein, je veux dire, évidemment, mais beaucoup disparaissent. Alors vous me direz, c'est injuste un peu ce que je dis, parce qu'on les voit réapparaître pour d'autres moments de la vie, évidemment, ça va de soi, ils ne partent pas complètement tous, mais il y a beaucoup qui partent, qui disparaissent complètement, qu'on ne voit plus jamais, dont on n'a plus du tout de nouvelles, finalement, et dont on sait finalement que, eh bien, finalement, cet enthousiasme s'est asséché aussi. Peut-être le temps, les affaires, peut-être la racine qui n'est pas assez profonde sur une terre, qui n'est pas assez irriguée ou qui n'y a pas assez de terre elle-même, je ne sais pas. Et puis il y a la route. La route, c'est le domaine du diable. Le diable qui, dans l'évangile de Luc, a peur que les graines ne montent et donnent du fruit et qui vient les retirer, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ce sont les oiseaux du ciel qui sont là, ça ferait plaisir à Saint-Dominique de voir que les oiseaux sont là pour se nourrir de la parole. Mais je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que la route? La route, pour moi, c'est quelque chose de... C'est peut-être le pire. C'est peut-être le pire, la route, parce que c'est le domaine des certitudes, peut-être, des intégrismes, des sectes, ceux qui savent tout. Alors, on leur apporte une parole. Oh, pff, non, c'est pas la peine, tout ça, c'est, j'ai ma vérité, etc. Domaine de l'égoïsme aussi. L'égoïsme des gens qui sont complètement enfermés sur eux-mêmes, l'égoïsme pur et dur. Donc, on essaye de leur apporter quelque chose, il n'y a rien à faire. Je me souviens d'un témoignage qu'on m'a apporté de quelqu'un, d'une dame qui disait « Je hais les pauvres ». Pourquoi les pauvres sont haïssables? Je veux dire, surtout quand on habite dans le 16e arrondissement, on n'en voit pas trop, on n'est pas trop dérangé, il faut des choses comme elles sont. Je veux dire, quand on habiterait à Calais, je dis, bah, bon, on peut se sentir dérangé à la limite, mais quand on habite dans le 7e arrondissement, dans le 16e arrondissement, et qu'on lâche cette parole comme cela en public, dire je hais les pauvres, on se pose quand même quelques questions. Devant un tel égoïsme, rien ne prend là. Rien ne prend là, absolument pas. Le mal est là, il est là en puissance, il est là en force. Il est là parce que les cœurs sont complètement sclérosés, sont complètement fermés, repliés sur eux-mêmes, indifférents à tout. Alors il y a ce domaine-là, et puis il y a le domaine du peuple de l'ennui. Je pense qu'une des raisons aujourd'hui de la désaffection de nos églises, et, que ce soit catholique, protestante ou autre, enfin peu importe, c'est l'ennui, et le fait d'être gavé. Vous voyez, on est un peu comme ces oies auxquelles on a fait manger de force leur pâté pour qu'ils aient un gros foie. Les tièdes aussi. Tout ça, il y a là dans la société actuelle quelque chose qui est un petit peu gênant. On se réveille pour nos égoïsmes, par exemple, lorsqu'on se sent menacé dans nos manières de vivre, notre richesse personnelle. Alors là, on va se bouger un peu pour voter, pour militer, mais pour une parole de vie, une parole qui doit produire finalement quelque chose d'ineffable, qui va nous transporter, nous décentrer, nous ouvrir au monde. Ce qui est tiède, eh bien, ne suit pas. Tout ce qui est de l'ordre du bof, vous savez. L'Apocalypse, dans la lettre à la Odyssée, le dit que n'êtes-vous pas froid ou bouillant? Mais vous êtes tiède, je vous vomis. Le tiède, ça écœure. Il n'y a rien, il n'y a pas de prise. C'est vraiment nul. C'est ce qu'on appellerait les petits bourgeois qui sont comme cela, qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui sont complètement indifférents au monde et qui s'embêtent parce qu'ils ont tout sous la main, finalement, dans nos sociétés extrêmement riches. C'est intéressant de voir que les églises qui marchent le mieux sont les églises évangéliques dans les banlieues, les églises ethniques, des gens qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas parmi les plus favorisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou même les églises, les assemblées de gens de la rue, lorsqu'on les rencontre et qu'on leur annonce l'évangile. On peut vous dire qu'ils sont très attentifs à la parole. Mais quand on est gavé, quand on a tout, quand on s'ennuie, on est dans la tiédeur, dans le... Enfin voilà. La parole glisse comme sur l'eau, sur les plumes du canard. Elle est enlevée. Pour d'autres, peut-être. Peut-être pour ces oiseaux. Alors, l'explication catégorie les genres humains. L'explication qui nous est donnée catégorie les genres humains, il dit, il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont comme ça, qui sont comme ces gens des épines, il y en a qui sont comme ces gens des rochers, il y en a qui sont comme ces gens de la route, et puis il y en a qui sont comme la bonne terre et qui produisent. Au fond, tous ces défauts dont on a parlé Ça dit, l'humanité, une humanité qui est tournée sur elle-même, qui est incapable de regarder ce qu'il y a en elle-même. On voit bien les défauts des autres, on voit bien qu'un tel est un enthousiaste auquel il faut faire attention parce que son enthousiasme peut disparaître. On voit bien qu'un tel, eh bien, tout lui est égal finalement. On voit bien qu'un tel a des soucis, que la parole a du mal à accrocher. On peut porter un jugement sur les autres, mais sur nous-mêmes. Nous jugeons. Nous jugeons souvent et nous aimerions donner notre parole là où ça pourrait porter du fruit. Mais Dieu, lui, donne sa parole. Il donne sa parole comme cela. Il donne sa parole et il espère. Il espère que cette parole produira du fruit à un moment donné ou à un autre. Soit parce que la haie finira par s'ouvrir un petit peu, soit parce qu'il y aura un peu de pluie sur cette terre qui manque un peu sur les rochers et qu'un grain ou deux donneront quelques épis. Peut-être aussi qu'un cœur s'ouvrira et que les oiseaux du ciel ne viendront pas picorer cette grâce qui est là. Le salut, il est là. Il est là pour tous, véritablement. C'est ce que signifie cette grâce, et ça, c'est fondamental. Ce semeur qui sort pour semer, il vient pour tout le monde. Il vient pour tout un chacun. Il y a une sorte d'universalité, là, de la parole donnée. Et ça, c'est fondamental. C'est peut-être pour ça que cette parabole est si importante, et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de prêcher dessus. C'est peut-être pour ça qu'on la retient aussi facilement. Il y a une sorte de prédestination d'une parole qui est donnée pour tous, une parole universelle. Dieu donne d'abord. Il donne d'abord. Il ne demande pas comment ça va produire, si ça va produire, ce n'est pas la question. Ce qui est question de ce semeur qui sort, c'est qu'il va donner. Il va donner à tout le monde à profusion. Et ce don qui est donné au monde de manière universelle et à tout homme, ça porte un nom et c'est la grâce. C'est ça la grâce, précisément. Cette parabole du semeur, elle est non seulement connue dans le christianisme, mais vraisemblablement en dehors du christianisme aussi. Car bien des gens qui sont agnostiques ou athées connaissent la parabole du semeur. C'est peut-être parce qu'il y a cette universalité, ce côté inconditionnel d'une parole qui est donnée partout, en tout temps, en tout lieu, finalement. Nous sommes tous des Christophores, des porteurs de la parole du Christ, finalement, des Christophes. Le royaume, il est là. Il est en nous, il n'est pas ailleurs, finalement. C'est nous qui sommes ces terrains, finalement. Hein? Et si nous ne jugions pas les autres, si nous regardions à nous-mêmes, nous dirons que, ben, finalement, dans nos vies, quels que soient les événements que nous avons traversés, il y avait toujours cette parole qui était là. Elle a toujours été là. Car lequel d'entre nous n'a jamais été, à un moment donné de sa vie, un peu absorbé par ses préoccupations? Lequel d'entre nous n'a jamais été enthousiaste et puis, pouf, au bout d'un moment, par lassitude, a laissé tomber, enfin, quand même, dire. Hein, lequel d'entre nous a bien entendu une parole, mais pff, la parole s'est envolée. Mais lequel d'entre nous aussi, à un moment donné, ou l'autre de sa vie, n'a pas reçu une parole et puis, tac, ça a fait tilt, ça a marché, veut dire, et puis ça a donné du fruit. Je crois que l'intérêt de cette parabole, ce n'est pas de dire que nous, un tel est comme ci ou comme ça, mais c'est de dire nous sommes tous à la fois. La parabole traverse nos vies, traverse le genre humain, voyez. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette universalité qui va vous toucher, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, je veux dire. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas une espèce humaine ou une autre, que sais-je encore, qui va être au bénéfice de cette parole. Non, la parole, elle est donnée, poum. Et puis nous la recevons. Nous la recevons dans notre être, dans notre terrain, finalement. Et ça, c'est fondamental, finalement. C'est ça, cette grâce qui est là. Alors, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention, parce que même si nous recevons cette parole, si nous l'entendons, il faut faire attention à cette parabole, hein, du diable qui vient semer des mauvaises herbes. J'y pensais en écrivant cette prédication. Je pensais au tableau de Claude Monet, vous savez, les coquelicots. Vous connaissez tous, c'est une merveille. Hein. Je veux dire, quand on va au musée d'Orsay, puis qu'on voit les champs de blé peints par Claude Monet avec ses coquelicots, on se dit qu'ils sont merveilleux. Vous savez que c'est une mauvaise herbe, hein, le coquelicot. D'abord, c'est de l'opium, hein, pour commencer. Hein, je veux dire, il ne faut pas le perdre de vue. Mais enfin, bon, ça, c'est pas très grave. Ça, c'est une autre question. Mais vous voyez, c'est beau, on trouve ça formidable. Alors, c'est une mauvaise herbe. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui est le plus proche d'un billet de banque? C'est un faux billet de banque, évidemment. Hein, tous les faux monnayeurs le savent. Et dans l'Apocalypse, la bête a le chiffre 666, c'est pas 777, parce que si c'était le chiffre 7, ce serait le chiffre de la perfection, celui de la création. Mais non, c'est pas le chiffre de la perfection, de la création, c'est le chiffre 6 qui est donné. 666, c'est-à-dire 7 moins 1, ce qui ressemble à la perfection, mais qui l'est pas. Précisément ce qui nous trompe, ce qui va nous séduire et nous emmener sur un mauvais chemin. Alors, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que même dans la bonne terre, c'est quand même pas gagné. C'est quand même pas gagné. Mais quand même, à la fin, il y aura cette récolte. On fera le tri à un moment donné. Quelqu'un d'autre le fera peut-être pour nous. Cela nous implique aussi à avoir un peu d'humilité et de ne pas juger les autres. Mais tôt ou tard, il y aura cette récolte complètement dingue, d'un grain qui va donner jusqu'à 100 sur l'épi. Je veux dire, même aujourd'hui, ça n'existe pas. Je veux dire, mais peu importe, c'est cette image du royaume, elle est là. Une parole. Une parole qui va être signe de cette grâce peut transformer toute une vie. Dire que cette vie a du prix aux yeux de Dieu, a du prix aux yeux des hommes, que cette vie est une vie de liberté, finalement, et une vie d'ouverture, que cette vie va être une vie qui va être marquée du sceau de la présence du royaume. Alors, si on a un tout petit peu conscience qu'il y a cette parole qui est là, qui est semée en nous, même si nous ne sommes pas une terre terrible, 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 s'il y a quelques cailloux et mauvaises herbes dans nos champs, peu importe, ce n'est pas très grave. L'intérêt, c'est d'avoir conscience qu'il y a cette parole qui est là, qu'elle est à notre disposition et que la récolte va être là. Et que cette récolte nous engage. Elle nous engage à être actifs, évidemment, à travailler à cette production, finalement, à récolter aussi pour pouvoir semer à nouveau. Cette parabole est une ouverture au monde. Elle est une ouverture au temps et à l'espace, à la vie, à l'action. Oui, elle est ouverte sur l'avenir, cette parabole. Car récolte il y aura, et récolte, on ressèmera aussi pour que ça continue. Pour qu'un dimanche, dans quelques années, on puisse encore lire la parabole du semeur, ici ou ailleurs. Amen.